blah, blah, blah.
I don't say blah, blah, blah.
Blah, blah, blah.
Blah, blah, blah.
Blah, blah, blah.
Ok, Armand, tu proposes un octogone sans règles? C'est quand tu veux, frère. Mais t'as parlé, moi j'ai parlé, j'assume. On attend la date, l'heure, le jour, part d'arbitre, octogone.
Bonjour à tous, bonsoir, bonjour à tous et à toutes. Bienvenue sur Blabla Podcast, le podcast qui parle de Guy et de Nogi. Aujourd'hui, on va parler Big Lift, d'accord. On va parler prépa physique avec un grand monsieur de la préparation physique chez nous en France. Nico, bah vas-y, je te laisse te présenter, Nico. Vas-y.
Salut à tous. Merci beaucoup de cette invitation. Donc, je m'appelle Nicolas Hotch, je suis préparateur physique, nutritionniste, entraîneur, spécialisé dans les sports de combat. Voilà, c'est déjà pas mal.
C'est déjà pas mal, Nico. Je te remercie d'avoir accepté l'invite. Même on a dû voilà, se trouver un jour et une heure de rendez-vous. En tout cas, voilà, je suis très content de t'avoir sur le podcast pour parler de la préparation physique dans les sports de combat, bien sûr. Et voilà, parler de ton expérience, donner des petits conseils à ceux et à celles qui nous écoutent. Et voilà, je suis en tout cas merci d'avoir accepté l'invite, Nico. Hein.
Merci beaucoup à vous pour l'invitation.
Il y a pas de souci. Donc voilà, Nicolas Hotch, Nico, la prépa physique. Donc ça va être le thème de ce podcast. La prépa comment t'en es arrivé là, Nico, la préparation physique, ton taf ben... quoi.
Ouais, tout simplement. En fait, moi, j'ai toujours pratiqué du sport, toujours pratiqué de la compétition. Et étant quelqu'un qui n'était pas forcément doué pour le sport, doué pour l'entraînement, etc., etc., je me suis toujours posé des questions sur comment on pouvait optimiser l'entraînement, comment on pouvait optimiser la nutrition, comment on pouvait optimiser la préparation physique. Et à l'époque, je lisais des magazines de karaté bushido et ouais. Il y avait des sections prépa physique, il y avait des petits articles de préparation physique, notamment avec Christophe Cario, c'était à l'époque.
Ouais, le sudiste là.
Le sudiste, et donc moi je dévorais ça quoi, la préparation physique. Il avait fait un bouquin spécial, c'était un numéro spécial karaté bushido. Donc déjà à l'époque j'avais acheté ça, je lisais ça, je testais ça moi-même sur des amis, etc. Et puis après, j'ai découvert Dominique Paris, qui est le préparateur physique de Oscar de la Hoya.
Ok.
Article qui était géniaux. Box, j'adorais ces articles. Et puis, de fil en aiguille, j'ai fait mes études basées sur le sport. Et puis ensuite, j'ai commencé la préparation physique sur moi, sur des amis, puis sur des athlètes professionnels. Et puis, de plus en plus de personnes, quoi.
Ok. Et quand tu as découvert ces revues sur la prépa physique, ces petits articles et tout, tu avais quel âge à ce moment-là?
Je pense que j'avais autour de 14 ans, 13, entre 14 et 16 ans peut-être, quand j'ai découvert ces articles-là. Moi, je faisais du taekwondo en compétition.
Ouais.
Donc, je préparais les championnats de France, je voulais mieux m'entraîner, je voulais mieux performer, etc. Donc, j'étais curieux, quoi. Et donc, je voulais sur ça. Et puis, comme je t'ai dit, moi, physiquement, j'étais un gringalet, quoi. Donc, je n'étais pas forcément très, très musclé, ni très fort, etc. Ce n'était pas facile pour moi, même si je gagnais des compètes à l'époque et tout. Mais voilà, et donc, forcément. Celui qui n'est pas le plus doué de la classe, c'est celui peut-être qui va bosser plus ou qui va le plus
dur. Le besogneux.
Ouais, c'est ça.
Ah ouais. Et donc, tu t'es mis à étudier la prépa physique en complément de ta discipline qui était à l'époque le taekwondo. C'est bien ça?
Exactement.
Et tu as vu, t'as vu quand même un changement après dès que tu t'es mis à la prépa physique? Même bon, à 14 ans, je veux dire, voilà, tu. C'est un début, quoi. Je veux dire, voilà, quoi. T'étais pas calé comme maintenant, quoi.
On n'est rien en réalité.
Voilà, ouais.
C'est le problème quand tu lis des magazines, c'est que tu as des bouts d'articles, tu as des bouts de compréhension, mais tu n'as pas la base de compréhension. Et ça finalement, j'ai mis des années à comprendre vraiment la base. C'est-à-dire que pendant des années, j'étais fasciné, j'étais obnubilé, tu vois, je voyais des choses qui brillaient, des méthodes. Et puis au bout d'un moment, au bout de plusieurs années, j'ai compris des principes. Après, une fois que tu comprends des principes, tu peux te dispenser des méthodes parce que tu comprends comment ça fonctionne, pourquoi ça fonctionne, tu mets du contexte. Et ça, j'ai mis des années à le faire.
Ah, tu t'améliores quoi dans le domaine. Et Nico, la prépa physique, la PPG ou la PPS, ça vient d'où? C'est quoi l'histoire de la. Comment on a découvert la préparation physique pour la performance à haut niveau? D'où ça vient? De quel pays c'est venu en quelle année chez nous en Europe, voire même ailleurs, quoi?
Non, ça a toujours existé. C'est-à-dire que si tu regardes les épreuves des Jeux Olympiques antiques, tu as déjà des personnes qui s'intéressent à comment développer le corps de façon à ce qu'il progresse et de façon à ce qu'il performe. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ça a toujours existé. Ce qu'on appelle le principe de base, un des principes séculaires de l'entraînement, c'est-à-dire la surcharge progressive.
Ouais.
Histoire de Milo de Croton qui avait un agneau sur le dos et au fur et à mesure que l'agneau grossissait, lui devenait de plus en plus fort. Ça,
Fort.
c'est comme histoire. Donc, si
C'est
tu veux,
c'est
ça.
pas une légende ça, hein. C'est vraiment c'est une vraie histoire.
Bon, c'est une légende, mais même si c'est une légende, c'est quelque chose qui, en tout cas, qui illustre un principe qui a toujours existé, celui de la surcharge progressive, celui de l'entraînement avec des haltères, avec des formes de kettlebell. Ça, c'est des choses qui ont toujours existé. Qui existe depuis plusieurs milliers d'années. Donc, on n'a pas inventé la préparation physique. Par contre, ce qu'on a fait, c'est qu'on a scientifisé la préparation physique de manière
Ouais.
moderne. Et ce que la science a permis d'ajouter à la préparation physique, c'est de tester des théories, de tester des choses et de savoir ce qui marchait, ce qui ne marchait pas, pourquoi ça ne marchait pas. Et surtout, quand tu comprends pourquoi, eh ben, tu peux adapter. C'est-à-dire que celui pour qui ça ne marche pas, tu peux trouver d'autres solutions. Alors que quand tu ne comprends pas, tu essaies
Ouais.
la même méthode, la même chose. Puis il y en a qui réussissent, il y en a qui ne réussissent pas. Et puis tu ne peux pas individualiser le travail. Tu ne peux pas changer puisque tu ne comprends pas. Quand tu comprends, voilà, individualiser, transformer, modifier parce que tu as compris les choses.
D'accord, ouais. En gros, ouais, ça a toujours existé, enfin, ça a toujours été là, ouais. Sauf que, voilà, dans les années plus récentes, modernes, on va dire, on a fait des tests, on a professionnalisé la préparation physique, quoi.
Alors, si on veut faire une histoire un peu plus moderne, si on regarde à l'échelle du siècle, si tu
Ouais.
regardes le siècle, il y a une alliance entre l'aspect fonctionnel, c'est-à-dire les sports de combat,
Ouais.
l'aspect force, qui sont les strongman, et l'aspect haltérophile, porter des charges, etc. Donc, si tu veux, si tu regardes le début du siècle, les hommes forts, genre George Hackenschmidt, qui était globalement, le combattant le plus connu du début du siècle était un combattant qui était connu dans le monde entier. C'était un mec qui était à la fois un lutteur invaincu, le meilleur lutteur du monde, sous un style catch as catch ken. C'est assez proche du MMA, quoi. C'était de la lutte, mais il y avait des frappes, etc., etc. Donc, c'était un
D'accord.
début du siècle. En même temps, c'était un strongman. C'était un mec qui faisait des épreuves de force, soulever des animaux, remplir. Tordre des poils, etc., etc. Ce qu'on voit dans
Voilà,
les
porter des pierres, tout ça, quoi.
ces choses-là. Et puis en parallèle, il faisait aussi de l'haltérophilie,
D'accord.
l'haltérophilie russe, etc. Donc, on voit qu'à l'époque, il n'y a pas de différence entre être musclé, être fort, être en bonne santé et savoir combattre. Tu vois? Et si tu regardes des photos de George Hackenschmidt et de ses entraînements, pourri. Sauter sur des tables, faire de la corde à sauter, faire des saltos, faire de la lutte, soulever des poids. En fait, le
ouais,
CrossFit.
le mec, il savait tout faire, quoi. Il était endurant, fort, il était explosif.
Il faisait déjà du CrossFit à l'époque, enfin du
Ouais.
cross-training. Et
D'accord.
ce qui est super intéressant, c'est que si tu lis un de ses livres, il avait un livre qui s'appelait La façon de vivre, The Way to Live. Et si tu lis ça, en fait, les conseils à l'époque, ils étaient vraiment très larges. C'est-à-dire que le mec, il te conseillait sur comment manger, sur comment dormir, sur comment respirer, sur comment se laver, sur comment s'entraîner. Ça dépassait le cadre de
Bah
juste.
ouais, c'était un lifestyle, quoi. C'était un mode de vie, quoi.
Hygiène de vie.
Ouais. Déjà au début du siècle, enfin, ouais, le mec était dans le turfu, hein.
Ouais.
Déjà. Honnêtement,
Moi, j'ai
ouais.
terminé l'étude aux États-Unis. Et quand
Ouais.
j'étais aux États-Unis, la femme, une de mes enseignantes, c'était la femme la plus forte du monde pendant 10 ans.
Ah ouais.
Cette nana, elle avait collecté, elle avait la bibliothèque. Ils considèrent, je sais pas si c'est exactement ça, mais en tout cas, ils considèrent que c'est la plus grande bibliothèque de préparation physique au monde qu'elle a là-bas. Il y a un
Ah
entrepôt de préparation physique. Et donc, George Hackenschmidt, c'est un mec qui avait vécu en France et
ouais.
donc qui avait écrit des livres en français. Et donc, moi, quand j'étais là-bas, elle avait ses archives de livres et elle m'avait demandé de faire mon rapport de stage. Enfin, pas mon rapport de stage, mon dossier de on était en histoire de la préparation physique. Et elle m'avait demandé de le faire sur lui. Et donc, j'avais fait ce dossier avec un titre qui s'appelait Déjà vu. Tu sais, un
Déjà
déjà.
vu.
Ouais, un déjà vu en anglais, tu sais, c'est quand tu vois, t'as rêvé d'un truc et tu le
Et ça,
vis.
ouais.
Et t'es. Putain, mais j'ai déjà rêvé ce truc-là.
Ouais,
Et
déjà vous.
en anglais, ils appellent ça un déjà vu. Et un
Ouais,
déjà
déjà
vu.
vous.
Et donc j'avais appelé ça déjà vu. En fait, j'avais montré à quel point les techniques que George Hackenschmidt utilisait au début du siècle ressemblaient à ce qu'on voit aujourd'hui et qu'on appelle parfois moderne, etc., mais que ça existait déjà depuis longtemps.
Déjà à l'époque, ouais. Ouais, maintenant, ouais, il y a plus un effet moderne et marketing, mais ça a toujours, voilà, ça a toujours existé, quoi, entre guillemets.
Marketing. Si tu regardes les magazines de l'époque,
Ouais.
tu vois des ventes de produits. Grâce à ce produit, vous allez devenir plus fort, plus musclé, plus endurant. Il y a déjà tout ça. C'est juste une autre forme de marketing, mais tout ça existe déjà.
Déjà, ouais. Ok. Bah, tu parlais de tes études, Nico, aux États-Unis. T'as étudié là-bas, toi,
C'est ça. J'ai
aux
étudié en France.
US.
Et après, j'ai étudié en France et après, j'ai eu la chance. L'opportunité de partir aux États-Unis pour finir mes études, finir mon cursus, grâce à un programme d'échange qui s'appelle le programme MICEFA, qui est un programme d'échange entre la France et les États-Unis. Donc j'étais dans une
D'accord.
grande université américaine là-bas, l'université du Texas à Austin. C'est une université, il y a 50 000 étudiants, il y a un stade de football américain qui fait 110 000 places. Il y a
Putain, ouais, gueule. Ouais. Un
encore
parc
une.
des princes, quoi.
Stade de foot.
Rapproche-toi légèrement du micro, Nico, parce que, comme je te l'ai dit, ça, des fois, il y a des petites coupures sur mon retour son,
Là, je suis vraiment prêt. Est-ce que tu m'entends bien?
ouais, là, c'est bon, nickel.
Ouais, je disais, donc le Stade de France, c'est 80 000 places. Là-bas, il y avait un stade de 110 000 places dans l'université. Il y avait un stade intérieur pour le basketball qui était 18 ou 20 000 places, donc plus grand que Bercy. Il y a pour le volleyball féminin qui était comme Coubertin, 5 000 places. Et ça, c'est dans la fac, dans
Non,
l'université.
là, ouais, c'est ça.
Les moyens techniques, ils étaient incroyables, quoi.
Ouais. Et t'as vraiment vu la différence entre l'Europe et les États-Unis au niveau éducation, même, je vais dire, dans le sport, quoi.
Incomparable.
C'est incomparable, ouais.
Comparable. La grande différence, je vais te donner les deux grandes différences. La première, c'est que les intervenants sont des gens qui sont des gens du milieu. Sont des gens, c'est-à-dire,
D'accord.
par exemple, on a une nana qui est intervenue. La nana, elle intervenait sur le Super Bowl. On a une nana qui était,
Putain.
on a une de nos profs. Elle était en même temps qu'on l'avait en cours. Elle était à la télé dans l'émission, genre les meilleurs coachs des États-Unis. Donc, c'est une nana qui a été championne de basket universitaire. C'est des gens qui sont sur le terrain. Alors qu'en France, on a beaucoup d'universitaires, de profs, qui ont été profs toute leur vie et qui n'ont jamais été sur le terrain, qui ne connaissent pas le terrain, qui ne connaissent pas ce que c'est d'entraîner des gens réellement, quelles sont les difficultés que tu rencontres quand tu voyages à l'étranger, etc. C'est des gens qui ne connaissent pas le milieu, en fait. C'est des gens
Ouais, il n'y a pas une mise en situation, quoi. Il n'y a pas eu cette expérience-là.
C'est ça. Donc, ça, c'est le premier point. Et après, le deuxième point, moi, ce que j'ai appris là-bas à lire. J'ai appris à lire.
À lire.
Ouais, tu vas comprendre pourquoi je te dis ça. Le système américain, c'est que tu as très peu d'heures de cours. Très, très peu. T'as, par matière, tu as entre 3 et 4 heures de cours par semaine seulement. Par matière.
Ouais,
Et tu n'as
c'est rien
pas
du
de
tout.
matière. Tu n'as que 3-4 matières. Donc, tu as entre 9 et 12 heures de cours par semaine seulement. Par contre, lire. Moi, il y a le cours d'histoire dont je te parlais, je devais lire un livre par semaine de 300 pages.
C'est énorme, un
C'est
livre
sur
par semaine.
un cours. Donc, un cours plus l'autre, plus en tout, je sais pas, tu as 500 pages à lire par semaine, 500-600 pages.
Putain.
Donc, en fait, l'idée, c'est qu'en France, tu arrives et le prof, il a lu un livre et lui, il te fait un cours à partir de ce livre qu'il a lu. Quand tu es aux États-Unis, chacun lit le livre. Tu viens en classe et tu parles du livre que tu as lu.
Que
C'est-à-dire
t'as
que
lu.
c'est un temps pour explorer les idées que tu as tirées du livre. Ce n'est pas un temps pour lire le livre. Tout le monde a lu et quand tu arrives en classe, le prof il dit, voilà, vous avez tous lu ça, ok, bon, voilà, j'aimerais qu'on parle de chapitre vous, qu'est-ce que vous en pensez? Donc toi, tu dis ça. Ensuite, c'est très interactif. L'autre mec, il va lever la main, il va dire, bah moi, ce que je pense, c'est que j'étais pas d'accord avec ça. Le prof, il va dire, oui, mais attendez, il faut remettre en perspective parce que ça. Et donc, en fait, en classe, tu es là pour discuter de ce que tu as appris tout seul. Tu as appris des choses tout seul. Et en classe, tu es là pour faire le point et en discuter avec le prof.
D'accord, il peut avoir même des opinions sur le bouquin que tu as lu et que un collègue de classe ou ton prof, voilà, il y a un échange, quoi.
Tu as des contrôles pour donner une idée de comment ça n'a rien à voir. C'est
Ouais.
forgé professionnel. Tu as des contrôles aux US où tu as le droit, ton portable, tu as le droit de prendre ton PC, tu as le droit d'ouvrir ton livre. Tu fais ce que tu veux. Pourquoi? Parce que le mec, il te dit quand tu vas être professionnel et tu as un programme à faire pour demain, bah, qui t'interdit de prendre ton téléphone, Internet et ce que tu veux pour faire le programme? Personne. Tu as le droit d'utiliser ces outils-là. Donc, il y a des cours, tu as des contrôles où tu as le droit de rien utiliser, tu as des contrôles où tu utilises ce que tu veux, tu as des contrôles que tu fais à plusieurs, tu as des stages, des rapports de stage, enfin des rapports de. Tu as tout le temps des rapports, tu as plein de dossiers à remettre que tu fais à plusieurs, il y en a que tu fais tout seul. Enfin, tu vois, il y a plein de formats de contrôle différents. Ce n'est pas un format de contrôle qui est toujours le même, tu dois faire tout seul sans t'aider de rien, tu vois.
Et ce système-là, pardon, ce système-là, c'est pour toi, il est mieux qu'ici, hein. C'est au niveau de la manière où tu vas emmagasiner quelque chose, apprendre quelque chose, c'est largement mieux que chez nous, grosso modo.
Moi, c'est ce que j'ai essayé. Tu sais, après, j'ai été enseignant. J'ai été enseignant au sein du BPJEPS, du CREPS Île-de-France. Tu vois, j'enseignais la méthode d'entraînement. J'essayais vraiment d'avoir cette pédagogie. En plus, c'est un truc assez chanceux parce que quand tu enseignes là-dessus, tu as des gens qui sont post-bac, mais tu as des gens qui ont 30 ans, qui ont 40 ans, qui sont en reconversion. On avait Papy, on l'appelait, il avait 50 ans. Tu vois, le mec, il a fait l'armée, il vient là, il est là. Tu vois, donc quand il n'est pas dans la. Savoir pourquoi il est là. Moi, je disais au gars, le premier truc que je disais dans l'année, c'est moi, je vous donne cours, mais si demain, enfin, si ça ne vous intéresse pas, si vous voulez partir du cours, si vous avez un truc important, vous pouvez partir, je ne vais pas vous noter absent. Je m'en fous. Par contre, si vous êtes en cours, vous ce qu'on dit, vous allez participer, tout le monde doit participer, tout le monde va passer au tableau, tout le monde va mettre les. Nous, j'avais une chance inouïe, c'est que la salle de classe, elle était collée à la salle physique.
Ah, ça déglingue, ça. Ouais.
Nous,
Ça, c'est hyper pratique.
méthode d'apprentissage, bah, on faisait 1 h 30, 2 h de théorie. Dès qu'on
Ouais,
allait.
et après, la pratique.
Je voyais que les gars, ils commençaient à piquer du nez.
Ouais.
Bon. Ça, on va pratiquer.
Et à partir de là, on pratiquait.
Ah, c'est, ouais, c'est le top. Et t'es resté combien de temps là-bas aux US où t'as étudié?
Je suis resté 1 an et demi. En fait, j'ai fait ma dernière année et puis ensuite j'ai fait 6 mois de stage là-bas.
D'accord, ok. Ouais. T'as fait même des stages. Et en ces 1 an et demi, t'as emmagasiné plus que peut-être, je sais pas, peut-être 3 ans chez nous, quoi, en France.
Ouais, j'ai emmagasiné plus et surtout, tu sais, bon, après, il y a la maturité. J'étais en fin d'études, le contexte. Donc j'avais une vraie envie d'apprendre, j'étais vraiment impliqué beaucoup. Et puis après, il y a un truc, c'est que la faculté de lire et de parler anglais, comme j'ai pu le faire là-bas, m'a donné un outil extraordinaire parce que on sait que les Américains sont en avance sur la préparation physique. À partir du moment où tu as accès à tous ces ouvrages, toutes ces formations, tous ces trucs qu'on lit aux États-Unis en anglais, bah, tu peux prendre de l'avance sur ce qui se passe en France.
Ah, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Là, je te suis à 200%. Donc voilà, Nico. Maintenant, voilà, je vais prendre l'exemple. Voilà, du JJB ou du grappling, quoi, parce que voilà, c'est ce que moi je pratique. Voilà, je suis pratiquant de no-gi. Je veux faire de la compète, je veux performer dans les compétitions. Je veux avoir un maximum d'atouts, Nico, je veux un maximum d'atouts pour gagner mes compètes. J'entame une préparation physique, d'accord? J'ai des échéances dans l'année. Comment je m'améliore? Comment je suis plus fort? Comment je deviens plus rapide, plus explosif? Comment je deviens plus endurant? Comment, voilà, toutes ces qualités biomotrices, comment je les développe?
La première chose, c'est que pour la plupart des combattants, il faut comprendre, bon, on est dans une discipline avec de la friction, avec du rapport de friction. On est là en train de forcer moi contre toi, avec un temps d'expansion de la force qui est assez long. Okay, on n'est pas dans un truc très explosif, très court, il y a un temps long, forcé, presque en isométrie parfois. Okay? Long pour développer la force. Donc ce qu'on voit, c'est que le niveau de force va être quelque chose qui va être important. Ce qu'on voit aussi, c'est que on a une activité, le jiu-jitsu brésilien, où quand on pratique, on est presque sur une activité, bien sûr, on est sur un mixte entre activité cardiovasculaire et musculaire, mais en tout cas, sur cardiovasculaire, on sollicite déjà pas mal pendant la pratique. Plus de ça, on est sur une discipline où quand on est au sol, le cœur monte pas très très haut sur le jiu-jitsu brésilien, parce qu'on est en position allongée. Alors peut-être plus haut dans d'autres catégories dans lesquelles ça bouge énormément, etc. Mais quand il y a le kimono, que c'est pas du no-gi, qu'on dépasse les 80 kilos, il y a des frictions, etc. Ça bouge pas super super vite. Donc, dès qu'on a compris tout ça, on a compris que globalement, sur un débutant, quand je vais augmenter sa masse musculaire, je vais augmenter de par le fait d'augmenter sa masse musculaire, je vais augmenter sa force maximale. Parce que la force maximale est directement corrélée à la masse musculaire. Plus tu as de masse musculaire, plus tu as une force maximale qui est élevée. Et donc, quand je vais augmenter la masse musculaire, de par le fait d'augmenter sa masse musculaire, je vais augmenter sa capacité à performer dans sa discipline. Simplement, sans faire d'analyse poussée sur quelqu'un qui est avancé, etc. Je parle d'un débutant. La plupart des jiu-jitsu brésiliens, s'ils augmentent leur masse musculaire, ils vont être plus performants dans leur discipline. Aussi simple que ça.
Voilà, donc je commence la première étape, c'est l'hypertrophie.
La première étape, c'est ce qu'on appelle l'hypertrophie, le développement de la masse musculaire. Exactement.
Que l'hypertrophie, enfin les mouvements pour augmenter ma masse, ça va être de la musculation traditionnelle qu'on voit partout dans les fitness, des biceps curl, des triceps extension, des leg curl, tout ça, enfin le truc basique.
Oui et non. Je vais dire oui et non. Alors, pourquoi la première
Vas-y,
chose.
explique.
La première chose, c'est que effectivement, c'est pas anti-machine ou que pour le, c'est ce qu'ils appellent en anglais les barbell compound, les big lifts, le squat, le développé couché, le soulevé terre, etc., etc. Mais c'est de comprendre que parfois, effectivement, on a tout intérêt à travailler de manière isolée sur des machines. Parfois, on a tout intérêt.
D'accord.
Dans tous les cas, quand on pratique le JJB, je sais pas, on prend un pratiquant classique de JJB, passionné, il fait déjà 4 séances de JJB par semaine. Au-delà de 4 séances de JJB, il peut ajouter 2 séances de préparation physique. Ok, ça fait déjà 6 entraînements par semaine, c'est costaud. Okay.
Ah, c'est déjà pas mal.
S'il veut hypertrophier, s'il veut créer une augmentation de son volume musculaire, il faut qu'il sollicite, c'est ce que dit la littérature sur le sujet aujourd'hui, il faut qu'il sollicite ses groupes musculaires au minimum 2 fois par semaine. Okay, 2 fois par semaine. Si lui, il a 2 séances par semaine, bah, il n'a pas le choix. S'il veut hypertrophier son corps, il faut qu'il fasse du full body, premièrement. Boum. Ça, je pose un truc qui n'est pas dans la norme du développement hypertrophique du pratiquant classique de musculation. Pratiquant classique qui va en salle, il va faire un split haut du corps, bas du corps, push-pull, etc. etc. pas sur ça, on est sur du full body à chaque séance, premièrement.
Deuxième. D'accord, sur du full body. En grosso modo, pourquoi le full body par rapport à un mec qui pratique le fitness traditionnel, la musculation, du culturisme, grosso modo, c'est qu'avec du full body, ça va être un gain de temps, c'est ça ?
Le truc est simple. Et même en réalité, hein, pour la plupart des pratiquants qui sont à bas niveau en termes de développement musculaire, ils auraient tout intérêt à faire du full body. Mais c'est une autre question. Mais c'est simple. La littérature scientifique aujourd'hui, elle dit que si tu veux développer un muscle, il faut le travailler de manière générale, attention, de manière générale, mais il faut le travailler au moins 2 fois par semaine, de 10 à 20 séries, on compte les séries qui sont proches de l'échec, 10 à 20 séries, au moins 2 fois par semaine, et dans un nombre de répétitions qui est entre 5 RM et 30 RM. 5 à 30 RM, 2 fois par semaine, sur du 10 à 20 séries. Voilà ce qu'on considère qui est idéal pour l'hypertrophie à l'heure actuelle.
L'hypertrophie, ok.
Donc déjà, ce qui se passe, c'est qu'il y a un phénomène qu'on appelle la synthèse protéique. La synthèse protéique, c'est le moment, quand tu as fini ton exercice, pendant lequel le muscle se reconstruit et se développe. Okay, on sait que cette synthèse protéique, elle peut durer 48 heures. Dans quelques rares cas, elle peut aller jusqu'à 72 heures. Mais passé 72 heures, globalement, ton muscle a récupéré, la synthèse protéique, elle est terminée. En tout cas, la reconstruction de ton muscle suite à ton effort musculaire, elle est terminée. Et tu peux retravailler ce muscle-là. Et donc, dans ce cas-là, si tu penses à 72 heures, bah, tu te rends compte que quand tu as travaillé ton muscle une seule fois dans la semaine, bah, tu as laissé 72 heures. Donc, 3 jours après, tu aurais pu le retravailler. Mais toi, tu le retravailles 7 jours après. Donc, tu es en train de laisser des gains de côté chaque semaine.
Ah, ok. Alors,
si tu voulais optimiser, bah, tu le travaillerais 2 fois par semaine. Or, si on prend un pratiquant classique qui n'a que 2 séances par semaine,
et
qui travaille 2 fois par semaine les mêmes groupes musculaires, sinon, il ne va pas progresser suffisamment. Donc, 2 fois par semaine, donc on arrive à un classique pour moi, c'est le full body. Du coup, full body. Deuxième chose, on va se dire, OK, sur quoi j'ai une réserve énergétique qui est limitée. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est-à-dire que ma séance, elle ne peut pas durer 4 heures. Ça va durer une heure et demie maximum.
Maximum.
OK. Donc, pendant ce temps, j'ai une énergie qui diminue au fur et à mesure de la séance.
Ouais. Donc, je peux
choisir un ensemble d'exercices d'isolation pour chacun des groupes musculaires du corps. Soit me dire que je peux choisir un exercice de poussée pour le haut du corps, un exercice de tirage pour le haut du corps, et puis un exercice de poussée ou de tirage pour le bas du corps, un exercice pour le bas du corps. Et que globalement, quand j'ai fait ça, j'ai travaillé l'ensemble du corps. Ouais. Donc, globalement, je peux choisir 3 exercices, en tout cas sur le cœur de séance, qui vont me faire développer ma masse musculaire.
OK.
Ah, ça, okay. C'est ce que j'appelle le cœur de séance. On peut associer des exercices soit de développement de l'explosivité, de développement de l'explosivité, de la pliométrie, etc. en début de séance. On peut rajouter de la prophylaxie, de la prévention des blessures avec des rotations articulaires contrôlées, par exemple, en début de séance. On peut rajouter du travail de grip, du travail abdominal en fin de séance. Voilà, ça, c'est plein d'options qu'on peut rajouter.
Dans la séance d'hypertrophie.
Dans la séance d'hypertrophie. Mais le cœur, c'est le milieu de la séance. C'est ce qui est important. Moi, ce que je dis sur le programme transformation, par exemple, je dis, voilà, c'est le cœur de séance. C'est-à-dire que le contrat entre vous et moi, le contrat que
à la fin du programme, on soit d'accord sur votre progrès. C'est que vous avez fait, nous, dans le programme de transformation, on a minimum 2 fois, mais la plupart des gens font 3 séances par semaine, du cœur de séance. Et le cœur de séance dure entre 1 demi-heure et 3 quarts d'heure. Ça, c'est le minimum que je demande. 3 fois 30 à 45 minutes, 2 à 3 fois 30 à 45 minutes par semaine, le minimum pour progresser. Et puis après, d'accord, j'ai des bonus avant, des bonus après, qui permettent d'optimiser la performance, qui permettent d'optimiser la prévention des blessures, d'optimiser l'explosivité, d'optimiser le grip, le travail abdominal, etc. etc. Et ça, c'est le truc pour ceux qui ont le temps, pour ceux qui ont l'énergie, pour ceux qui ont le niveau aussi.
Ouais, le niveau,
oui. Récupérer d'autant d'entraînement.
Ok. Donc là, Nico travaille d'hypertrophie. Cette phase d'hypertrophie, elle est faite pendant combien de temps ?
Elle peut durer très longtemps.
Ah ouais ?
Elle peut durer très longtemps, bah oui. Parce que ce que les gens oublient, c'est que à côté de ça, je continue à faire mon JJB.
Ouais.
Mes qualités de JJB, les qualités d'explosivité que j'ai dans le JJB, d'endurance, de puissance que j'ai dans le JJB, le grip, le cardio que je travaille dans le JJB, je continue à le travailler. C'est pas comme si j'avais arrêté le JJB. Tu vois, les mecs, ils sont là en train de penser, ah ouais, mais du coup, tu fais de l'hypertrophie, tu vas devenir lent, etc. La plupart, déjà, premièrement, la masse musculaire supérieure, au même poids, si j'ai plus de masse musculaire, je suis plus rapide, je suis pas plus lent.
Si ouais, ouais.
Avec plus de masse musculaire, je suis plus rapide, je suis pas plus lent.
C'est vrai qu'il y a beaucoup, excuse-moi de te couper, il y a le mythe, ouais, si je prends de la masse musculaire, je deviens plus lent, moins explosif. Et même des fois, ils disent même moins endurant. Il y a ce mythe-là, cette légende.
Les mitochondries, et on pourra partir dessus, je ne vais pas m'enfoncer dans ces petits organites qui sont dans les cellules, c'est l'oxygène, produire de l'énergie.
Ouais.
Quand tu augmentes ta masse musculaire, il y en a moins par rapport à la quantité de muscles. Tu as plus de muscles, mais tu as toujours autant de mitochondries, donc tu en as moins. Mais c'est simple, il suffit ensuite de développer les mitochondries dans un deuxième temps, et puis tu développes les mitochondries pour cette masse musculaire. Ça se développe aussi, c'est évident. Maintenant, si tu regardes le dopage, on sait que c'est efficace. Sinon,
ouais.
On sait que c'est efficace.
Bien sûr.
Quel est l'effet principal? Il y a plusieurs façons de se doper, il y a le PO, etc. Mais quel est l'effet principal de la prise, par exemple, de testostérone sur les compétiteurs de jiu-jitsu brésilien? Qu'est-ce qui se passe? Ils augmentent quoi? Ils augmentent leur masse musculaire.
Masse musculaire, ouais.
Ils sont pas en train de gagner en technique. Ils sont pas en train de gagner en technique. Ils sont en train de gagner en masse musculaire. Et en gagnant en masse musculaire, ils font quoi? Ils deviennent meilleurs.
Plus fort, ouais, plus fort, plus puissant.
Donc après, il y a une façon de travailler, mais travailler intelligemment, le travail de musculation à amplitude totale, ça c'est très important, à amplitude maximale, permet non seulement de conserver la mobilité, mais aussi et surtout de développer la mobilité. C'est-à-dire, contrairement à ce que les gens pensent, j'ai fait une vidéo là-dessus, quand tu fais en musculation, quand tu fais du squat profond, quand tu fais du soulevé de terre, jambes tendues, quand tu fais... Tu es en train de développer ta mobilité, tu es en train de renforcer tes articulations dans l'amplitude totale de l'articulation. Donc, c'est des choses qui sont très intéressantes et qui permettent en plus de des adaptations qui sont stables sur le long terme.
Ouais.
Le bénéfice de la musculation, vraiment, hein, on passe du temps dessus, mais parce que c'est trop souvent sous-estimé. Le bénéfice de la musculation sur la prévention des blessures.
Ouais.
Sur la capacité à gagner en compétition, sur la souplesse, le bénéfice de la musculation bien effectuée est tout bonnement incroyable.
C'est-à-dire même que, sur la souplesse.
Sur la souplesse,
tu peux. Je ne savais pas.
Ouais, il suffit de regarder les haltérophiles. Les haltérophiles, ils font quoi? Ils font de la musculation avec des charges qui répètent sur très peu de répétitions. OK?
Ouais.
Quel est le résultat de l'haltérophilie? On a des mecs qui sont extrêmement mobiles, c'est-à-dire mobiles plus force. Donc, ils sont capables de mettre l'articulation dans des angles incroyables. Souvent, c'est des mecs qui font le grand écart, hein, qui font le grand écart, qui ont les épaules extrêmement mobiles.
Ouais, les épaules, ouais. Pour arracher les barres, ouais, forcément.
Ils sont extrêmement souples. Et en plus, c'est des mecs extrêmement explosifs. C'est des mecs qui sautent très, très haut, qui courent très, très vite.
Ouais.
Si tu observes un petit peu les haltérophiles, tu comprends que la musculation n'est surtout pas à l'opposé du développement de la souplesse et du développement de la force, de la souplesse et de l'explosivité.
Il n'y a d'interférence, quoi.
Alors, ce n'est pas il n'y a pas d'interférence. Il y a des interférences avec d'autres choses. Il y a des, okay. On parle, si tu veux, des zones d'interférence, même si je ne suis pas sûr que dans tout dans ce podcast, on ait le temps de parler de...
Ouais, revenons à nos moutons, Nico.
Voilà, le seul truc que je veux dire, c'est pour faire très, très simple sur cet aspect, c'est je suis pratiquant de JJB. Et je ne sais pas pourquoi c'est. Je prends un programme de force athlétique ou je prends un programme d'hypertrophie classique sur lequel je vais travailler le développé couché, une forme de tirage, un tirage haut, un tirage bas, un tirage horizontal, un tirage vertical. Je vais travailler le développement des fessiers, soit avec un soulevé de terre jambes tendues, soit avec un soulevé de terre normal. Je vais travailler le développement des quadriceps avec une forme de squat, squat Bulgarian split squat, du squat barre haute, du squat barre basse, une forme de squat. Normalement, je mets tous les atouts de mon côté. Si j'ai la patience de faire ça pendant plusieurs années, d'aller à l'amplitude complète et de respecter la surcharge progressive, de mettre progressivement plus de poids, globalement, j'ai fait une grande partie du boulot pour améliorer ma performance. Et d'ailleurs, si on regarde les études, si tu regardes qu'est-ce qui différencie en termes de structure, qu'est-ce qui différencie un pratiquant de bas niveau, de niveau, je sais pas, régional, avec un pratiquant de niveau national ou international, le niveau de la masse musculaire différencie le pratiquant de niveau régional du pratiquant de niveau national. Le pratiquant de niveau national a systématiquement plus de masse musculaire que le pratiquant de niveau régional.
Là, c'est un gros tip ça, que tu nous balances là, sur le podcast. Hein.
Tu regardes, et si ça t'intéresse, je t'enverrai même les graphes. Mais tu regardes même, tu regardes simplement, tu vas à une compète régionale de JJB, tu regardes à quoi ressemble le pratiquant basique, à quoi il ressemble, et puis tu regardes à quoi ressemble le pratiquant classique de l'ADCC, ADCC World, les 16 finalistes, et puis tu vas voir la différence de masse musculaire. Ouais. Bon.
Forcément, voilà. Forcément. Donc tout part de l'hypertrophie, Nico. Donc une fois que, enfin, elle peut, comme tu dis, la phase d'hypertrophie, on peut la faire tout le temps en rajoutant, forcément le sport spécifique, que soit le gi ou le no gi. Comment ?
Je ne veux pas dire tout le temps. Ce qui est intéressant en général, c'est de faire des cycles. Donc on va faire de l'hypertrophie. Sur l'hypertrophie, on distingue l'hypertrophie métabolique avec un stress métabolique et avec un stress mécanique. Métabolique, c'est la sensation de brûlure que tu ressens plus quand tu fais beaucoup de reps. Mécanique, c'est la sensation de mal que tu ressens quand tu fais du 5 ou 10 reps. Mm-hmm. En général, on différencie les deux types d'hypertrophie. C'est un spectre, hein, ça va de l'un vers l'autre. Et en général, ce qu'on fait quand tu fais un cycle, une programmation intelligente, tu vas commencer avec de l'hypertrophie, par exemple, avec beaucoup de reps et pas beaucoup de poids, et puis au fur et à mesure, tu vas monter, tu vas diminuer les reps, tu vas monter le poids, et puis tu vas aller progressivement vers un programme de développement de la force maximale, où tu vas plus jouer sur le système nerveux. Parfois, tu vas passer de force maximale à de la puissance maximale, donc l'expression de la force dans un temps très court, c'est ça la puissance.
Ouais. Après,
tu vas arriver sur ce qu'on appelle la puissance endurance, c'est-à-dire le développement répété d'actions puissantes. Mais faire de la puissance endurance quand tu n'as pas développé la puissance, ça n'a pas beaucoup de sens parce que tu développes de la puissance endurance, mais en fait, tu n'as même pas de puissance. Donc, il faut déjà développer la puissance pour faire la puissance endurance.
D'accord. OK, ces phases-là. C'est des blocs des cycles de combien de temps par rapport à l'échéance, Nico ? On doit commencer quand ? Si, admettons, je ne sais pas, en janvier, j'ai Lisbonne. Ce cycle d'hypertrophie, de force max, de puissance, d'endurance, je dois la commencer combien de temps avant ?
La préparation physique, c'est quelque chose qu'on fait toute l'année.
Toute l'année, voilà. Il n'y a pas de phase que ce soit off-season ou bien une approche de compète, on doit être prêt tout le temps.
Non, mais voilà. C'est pas prêt tout le temps, mais c'est que c'est un travail qui prend des années. Développer la force, développer la masse musculaire, développer le... Tu vois, un mec comme Anthony De Oliveira, tu vois, le physique qu'il a, c'est un physique qui s'est forgé en 10 ans de travail. Donc, et c'est ce qui lui permet aussi aujourd'hui de performer au niveau où il performe. Donc, c'est des années de travail. Et donc, moi, mon conseil pour ceux qui commencent, c'est de commencer le plus tôt possible, commencer dès aujourd'hui à faire ce qu'ils peuvent faire. Et puis, au fur et à mesure des années, ils vont développer, et puis ils vont faire des cycles. Bien sûr, ils vont faire des cycles de puissance, ils vont faire des cycles de force, ils vont faire des cycles d'hypertrophie, faire des cycles de puissance-endurance. Mais il ne faut pas voir à petite échelle juste pour Lisbonne, là, qu'est-ce que je veux faire? Il faut voir à grande échelle. Je commence la préparation physique et comme le JJB que je vais pratiquer pendant des années, la préparation physique, je vais la préparer pendant des années.
Des années. Ok. En grosso modo, elle fait partie, pour celui, le compétiteur, hein, elle doit faire partie intégrale du spécifique, quoi.
C'est ça.
Ok. Et du coup, forcément, si on l'a fait toute l'année, parce que c'est un taf de longue haleine pour une carrière, entre guillemets, sportive, c'est en même temps une phase de maintien, grosso modo.
Ah bah, tu fais toute l'année, ça ne veut pas dire que tu maintiens, c'est-à-dire que tu continues à développer au fur et à mesure des années.
D'accord, ok.
Moi, je te donne l'exemple du Crêpes de France, par exemple. Au
Ouais.
Crêpes, on a des jeunes 2 fois par semaine, une heure. Ils commencent la préparation physique à 13, 14, 15 ans.
13, 14. C'est l'âge d'or de la prépa, de la prépa physique, 13, 14, 15.
C'est pas
En
l'âge d'or.
dessous, ouais, en dessous, c'est pas conseillé?
Non, c'est pas que c'est pas conseillé, c'est juste différent. Tu fais d'autres choses.
Ouais, c'est pas les mêmes, c'est pas les mêmes. On va pas travailler avec les mêmes outils.
C'est ça, on va pas travailler avec les mêmes outils. Mais si tu
D'accord.
veux, ce que je veux dire, c'est que à 13, 14, 15 ans, ils commencent, ils vont continuer ça s'ils vont à haut niveau jusqu'à leurs 25 ans, 26 ans, 27 ans. Tu vois? Donc à un moment, quand ils arrivent à haut niveau, ça fait 10 ans qu'ils font de la préparation physique.
Ouais, bien sûr.
Donc ça
Et
fait 10 ans. Leur proprioception, leur niveau de force, leur niveau d'explosivité, leur mobilité, etc., etc., pour développer la performance, mais aussi pour prévenir les blessures.
Ok, Nico, celui qui fait du CrossFit, qui fait, je sais pas moi, 20 soulevés de terre, je sais pas moi, 50% de son IRM, tout de suite il enchaîne avec 20 jump box, box, ouais, de la pliométrie sur box. Est-ce que c'est de la prépa physique ou pas du tout ça?
Non, c'est de la préparation physique. Après, il faut pas. Il y a du très très bien, il y a du très très bon dans le CrossFit. Et quand tu connais des athlètes de CrossFit, tu te rends compte que les mecs, ils sont complets, ils sont techniques, ils maîtrisent vraiment une grande variété de mouvements. C'est très intéressant. Compétiteurs de CrossFit, attention, hein, je parle des compétiteurs, ceux qui sont vraiment engagés. Moi, j'en ai eu en élève. Attention, c'était des machines de guerre, les gars.
Ouais, c'est des machines,
C'est des machines. Donc attention, mais là où les gens font une erreur, c'est que le compétiteur de CrossFit ne passe pas sa vie à faire des woods. Le compétiteur de CrossFit travaille comme le compétiteur de MMA, comme le compétiteur de n'importe quelle discipline. Il travaille avec des thèmes et ces thèmes sont travaillés en fonction de ses forces et de ses faiblesses. Donc, il crée des adaptations pour maximiser ses forces et pour minimiser ses faiblesses. C'est comme ça qu'il travaille. Donc, bien évidemment que le CrossFit, c'est un outil qui est très intéressant de préparation physique générale. Maintenant,
Non,
quand on fait du JJB et qu'on fait du JJB de compétition, le CrossFit, si on n'a pas d'autres solutions, ça peut être un bon outil. Mais si on a d'autres solutions, si on a un préparateur physique qui va nous guider, qui va minimiser la fatigue centrale, la fatigue générale du corps et qui va maximiser la fatigue locale, la fatigue des muscles, qui veut développer les adaptations qu'il veut créer, et ben là, c'est le top du top. Maintenant, moi, ce que j'ai vu, c'est que même à haut niveau, j'ai vu à haut niveau des préparateurs physiques qui arrivent et qui font du crossfit, du crossfit, du crossfit. Les athlètes, ils transpirent, ils sont contents à la fin, sans même comprendre exactement quel était l'objectif de la séance, qu'est-ce qu'on fait progresser, quelles sont les adaptations recherchées, etc., etc. Et ça, moi, je trouve ça dommage.
Bah ouais, parce que là, on s'éloigne un peu du spécifique. Je veux dire, je sais pas, moi, je prends l'exemple, bah, on va dire, du JJB, où il y a des mouvements de tirage ou de d'isométrie. Voilà. Et, bah, c'est pas, si on pratique le CrossFit, c'est pas en adéquation, quoi. C'est pas spécifique au sport, quoi. Tu vois, si le mec il doit faire 50 sprawl saut, là, comment on appelle ça, en CrossFit, les sprawl, on les appelle les quoi?
Des
Les
burpees.
burpees, ouais. Si tu dois faire 50 burpees. Et après 20 pull-ups, c'est pas spécifique à ton sport, hein. Même si j'entends bien, voilà, au niveau, voilà, endurance musculaire ou cardiovasculaire, ça aide forcément, hein. Mais c'est pas adéquat à ta discipline, quoi.
Bah,
Dans
en
un
fait, il y a des trucs qui peuvent être adéquats et d'autres qui ne sont pas adéquats. Et c'est du hasard parce que le mec, il a fait un wood qui n'était pas dessiné, qui n'était pas créé pour créer des adaptations pour toi. Il a fait un wood et dans le monde entier, fait la même chose. Donc ça, c'est le premier point. Et puis après, le deuxième point, il faut comprendre qu'on a des réserves, des ressources énergétiques. Ces ressources-là, elles ne sont pas illimitées. Ça, tout le monde l'a bien compris. Tu ne peux pas t'entraîner de manière illimitée. Du coup, le but d'une préparation physique, c'est de maximiser la fatigue des choses et l'adaptation des éléments que tu veux développer. C'est-à-dire que si toi, par exemple, j'ai identifié que tu manquais de masse musculaire, bah, c'est la première chose que je veux développer chez toi. Mais si toi,
Merci, c'est
j'ai...
gentil, Nico.
Non. Chez toi.
Non, je plaisante, je rigole.
Développement cardiaque, il faut que je concentre mon énergie sur le développement cardiaque. Donc, je dois maximiser la fatigue local de l'élément que je veux développer et minimiser ce qu'on appelle la fatigue systémique, la fatigue de l'ensemble du corps, parce que je veux te laisser de l'énergie pour pratiquer ta discipline qui est le JJB. Ça, c'est très
D'accord. Nico, donc là on a vu pour améliorer ses qualités physiques, d'accord, au niveau force, endurance, puissance, tout ça. Maintenant, tu l'as dit juste en préambule tout à l'heure, deux séances semaine pour un compétiteur plus sa discipline, c'est amplement suffisant. Pour développer ses qualités. Maintenant, Nico, les horaires de training. Toi, pour un mec, je parle pas qu'il a un mec lambda qui travaille toute la journée, il revient à 18h chez lui. Mais quelqu'un qui se lance, voilà, qui prépare une carrière sportive. Qui a du temps, qui se consacre à 200% à sa carrière, et éduqué pour faire ça. Quels horaires qui est mieux pour ta prépa physique par rapport à ton spécifique? Est-ce que le matin, c'est mieux de faire sa prépa physique et au soir à 18h, je vais à mon sport? Est-ce que je sais pas, c'est, je m'entraîne lundi, mardi, mercredi, c'est repos, je repars jeudi, vendredi, ainsi de suite, samedi, repos et dimanche, je repars. Qu'est-ce qui serait mieux pour optimiser les performances, la performance?
Ce qui se fait de manière générale, en général, on a le travail physique le matin, le travail plutôt spécifique de sparring, etc., la partie ou le soir. La raison, elle est simple, hein, comme il y a plus de gens qui sont disponibles le midi et le soir, et comme le matin, les préparateurs physiques, en général, ils sont disponibles parce que c'est leur métier, et donc ils ont du temps pour ça le matin. En général, l'emploi du temps fait que les préparations physiques se font plutôt le matin. Et les entraînements collectifs seront plutôt le soir. C'est une question d'organisation très simple. Maintenant, en
D'accord.
termes d'intensité, le management de l'intensité, ce qui se fait aujourd'hui beaucoup, c'est ce qu'on appelle l'entraînement polarisé. Polarisé, c'est-à-dire qu'on fait varier les intensités de l'entraînement au fur et à mesure de la semaine. L'idée, c'est d'avoir 2 jours, 3 jours maximum, et pour la plupart des gens, 2 jours, c'est suffisant. 2 jours à intensité, les jours durs, les jours où vraiment tu vas monter dans les tours, tu vas monter à plus de 80%, plus de 85% de ta capacité à monter dans les tours, de ton cardio, de ta force, etc. Tu vas faire les trucs très durs ces jours-là, et le matin et le soir.
Et les autres jours, c'est les jours bas, on appelle ça. Et ces jours-là, tu vas faire du travail beaucoup plus technique, beaucoup plus souple. Tu vas pas faire le sparring dur, tu vas faire du travail de prévention des blessures, etc., etc. Et cette organisation de l'entraînement, qu'on appelle le high-low ou l'entraînement polarisé, ça permet de maximiser les moments où bah, tu es vraiment fatigué. Et ensuite, les jours bas, tu récupères vraiment. Et les jours où tu dois te donner, tu peux vraiment te donner à fond. Ce qui se passe, c'est que quand tu veux te donner à fond tous les jours, et que tu es un sportif de haut niveau et que tu t'entraînes tous les jours, tu veux te donner à fond. Et ce qui se passe, c'est que lundi, effectivement, tu te donnes à fond. Mardi, bah, tu n'arrives pas à te donner à fond parce que lundi, tu t'es déjà donné à fond. Mercredi, tu es encore moins bon. Et en fait, au fur et à mesure de la semaine, tu deviens de moins en moins bon. Et
Ouais,
donc,
il y en a beaucoup, et excuse-moi de te couper, il y en a beaucoup. Moi, j'entends surtout des potes qui font bon, plus du MMA où l'intensité est un peu plus hard. Pour moi, hein, c'est mon avis perso, que du no-gi ou que du gi, quoi. J'entends beaucoup, voilà, que ce soit même dans les réseaux sociaux, ah, moi, c'est tous les jours je m'entraîne 100%, c'est ça si tu veux performer, machin et tout. Mais grosso modo, ils font une grosse erreur sans le savoir, ouais. Ils sont pas 100%, c'est impossible physiologiquement d'être à 100%, même s'ils ont 21, 22, 23 ans, je pense pas que c'est possible d'être à 100%, allez, 5 ou 6 fois dans la semaine, chaque jour, quoi.
non, ce qui est recommandé, et ça a été étudié, hein, ce qui est recommandé, c'est 2 jours et sur certaines périodes pendant un temps qui est plus court, 3 jours à haute intensité. Donc nous, quand c'était 3 jours, quand c'est 2 jours, c'est lundi, jeudi. Voilà, c'est le sparring dur et en même temps c'est la préparation physique dure. Et quand c'est 3 jours, ensuite le samedi en période de camp d'entraînement, et puis ensuite on enlève le samedi, puis on rajoute le samedi quand on redémarre le camp d'entraînement. Voilà comment on fait.
D'accord. Okay. Bien, bien, bien. Nico, j'en étais où? Voilà, on a parlé de bah, forcément de la performance hein, dans son sport. Maintenant, la récup, Nico. Comment on fait pour bien récupérer après des grosses séances d'entraînement, des grosses échéances? Comment on fait pour bien récupérer et repartir, pour bien repartir tout simplement, quoi.
Okay. Les trois
Quels sont
piliers.
les petits tips, voilà, pour bien récupérer?
On va parler, moi j'aime bien parler des piliers, j'aime bien parler des choses qui sont importantes. Et puis ensuite, les petits tips, ça c'est ce que vous voyez un peu partout, tout le temps, mais les piliers, c'est important. Le premier pilier le plus important de la récupération, c'est le management, la gestion de la charge d'entraînement. C'est ce qu'on vient de parler. C'est-à-dire que organiser de manière intelligente sa charge d'entraînement, c'est le premier pilier de la récupération. Si on a ce qu'on appelle le MRV en anglais, le volume maximum auquel je peux récupérer. Si moi, je peux récupérer de 4 entraînements par semaine, mais je me suis mis un emploi du temps de 6 ou 7 entraînements par semaine, j'ai déjà dépassé ma capacité de récupération et les entraînements que je fais en plus ne servent à rien puisque je ne suis même pas capable de récupérer de ces entraînements. Donc, la première chose, c'est de s'entraîner à la hauteur de notre capacité de récupération. Ça, c'est la première chose. Et d'organiser de manière intelligente sa semaine d'entraînement avec de l'entraînement polarisé dont on vient parler, de façon à optimiser sa progression sur le long terme. Il ne faut pas voir le court terme, il faut voir le long terme. Si je veux être un champion, ce n'est pas dans 2 mois que je vais être un champion, ce n'est pas dans 1 an, c'est dans 5 ans, dans 10 ans. Donc, pour ça, il faut que je voie le long terme. C'est la première chose. La deuxième chose, et la chose qui est la plus importante, qui est gratuite, que tout le monde sous-estime et que personne ne veut faire, c'est le sommeil. Et sur le sommeil, c'est et en qualité et en quantité de sommeil. Ça, là-dessus, il n'y a aucun doute aujourd'hui. Il y a des livres, il y a un livre notamment qui s'appelle Why We Sleep, qui est incroyable sur le sommeil et l'influence du sommeil sur la capacité de cognitive et de performance. Le sommeil, c'est la chose avec
La
laquelle
plus
un
importante.
ne doit jamais, jamais, jamais déconner. C'est-à-dire que c'est l'outil de récupération le plus important et pour le cerveau et pour le corps.
D'accord. En un, le sommeil, c'est le pli numéro un.
Ouais. Le pli numéro 1, sommeil. Alors le sommeil, un bon sommeil, c'est un sommeil de quantité, de qualité. La quantité, c'est quoi? Eh bien, c'est simple. Si vous voulez savoir combien vous avez besoin d'heures de sommeil, en général, pour la plupart de la population, c'est entre 7 et 9 heures de sommeil. Si vous voulez savoir combien vous avez besoin, vous ne mettez pas de réveil demain matin et vous allez voir à quelle heure vous arrivez. Et si vous faites ça pendant une semaine, vous regardez le nombre d'heures moyennes que vous avez dormi pendant une semaine, c'est le nombre d'heures de sommeil dont vous avez besoin pour être bien. Voilà.
C'est propre à chacun.
C'est propre à chacun. Mais en général, c'est entre 7h et 9h. Okay,
ouais, dans la globalité.
Voilà. Maintenant, on a un rapport au sommeil qui est lié à la lumière. Donc, la lumière, au moment de se coucher, il faut qu'elle soit progressivement diminuée pour nous emmener vers le sommeil. Et la lumière, au moment de se lever, il faut qu'elle soit progressivement, ou pas progressivement, mais en tout cas, il faut avoir un contact visuel avec l'œil, avec de la vraie lumière, de la lumière de dehors, de façon à bien se réveiller. Quand tu te lèves le matin, si tu as une terrasse, si tu as un balcon, si tu as un jardin, tu vas dehors et tu prends la lumière du soleil. On considère qu'il faut prendre au moins 40 minutes de lumière du soleil dans l'œil pendant le temps où le soleil est en train de se lever.
Je vais me lever tôt alors, Nico. Putain, 40 minutes. Plutôt que d'habitude. Ouais, Nico. Allô, Nico. Bah, c'est en direct, hein, les enfants. Hein. J'ai une petite coupure avec Nico. Bah, ça va être le passage pub. Merci de nous écouter sur Blabla Podcast. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook. Vous pouvez nous follow, télécharger toutes les podcasts sur les applications audio comme Apple Podcast, comme Spotify, Deezer, Google Podcast et bien d'autres. N'hésitez pas à suivre, mettre la barre de notification pour suivre chaque épisode. J'espère que ça vous plaît et on continuera comme ça. Et même sur Instagram ou même sur Facebook, si vous voulez un thème bien précis, n'hésitez pas à le mettre sur les commentaires. Hein. Merci pour cette pub-là. Nico !
Idir, désolé, ça a coupé. Et ça a pas coupé aussi la batterie.
Ok.
Est-ce que tu as fait la première phase déjà ?
Ouais, j'ai bien. Ouais. Tout ce qu'on a dit là, pour l'instant, tout y est enregistré, hein, pas de souci.
Alors, dis-moi, donc le sommeil.
On était au sommeil. Enfin, là, on est tout pour la récup, là, pour pas tomber dans le surentraînement.
Voilà, donc la récup, le sommeil, très très important. Je te dis 7 à 9 heures de sommeil, avoir un contact visuel avec de la lumière dans la matinée, 40 minutes, on recommande. Éviter de prendre tout ce qui est excitant, passer midi, 13 heures, éviter tout ce qui est excitant, donc le café, le Red Bull. Les trucs de musculation, les boosters, etc. Évitez ça après le midi parce que vous êtes en train, quand vous faites ça, vous êtes en train d'exciter votre système sympathique, la décharge d'adrénaline, le cœur qui augmente, etc. Et vous êtes en train de prendre de la récupération de votre sommeil. Alors peut-être que vous allez dormir autant, mais vous allez avoir un sommeil qui est moins profond, qui est moins récupérateur, et donc vos tissus vont moins récupérer. Ce qu'il faut comprendre, c'est que je m'entraîne, ça c'est bien. Je m'entraîne. Mais le moment où les tissus sont réparés, sont reconstruits et grossissent, c'est pendant que je dors. Le moment où je mémorise les techniques, c'est pendant que je dors. Donc, si je néglige mon sommeil, je fais du travail, mais sans laisser l'opportunité. C'est comme si j'ai mis un chantier, je paye les ouvriers, mais je ne les laisse pas venir jusqu'à la maison pour qu'ils construisent la maison. Tu vois, je les empêche. Et au lieu de leur dire, les gars, je vous laisse 8 heures par jour pour bosser sur la maison et construire la maison, je dis non, je vous ai bien payé, mais moi, je vous laisse que 6 heures par jour. Et toi, tu me regardes, tu dis, mais Nico, pourquoi tu ne les laisses pas 8 heures par jour? S'ils font 8 heures, ils vont mieux bosser. Bah, moi, je te dis, ouais, non, mais j'ai d'autres trucs à faire, je n'ai pas le temps pour ça. Ok, bah, toi, tu me dis, ok, tu n'as pas le temps. Mais moi, je les laisse 8 heures par jour sur ma maison et ma maison, elle est en train de grandir 3 fois plus vite que la tienne. Ouais, mais comment tu fais? Bah, comment je fais? Je te dis comment je fais. Je les laisse bosser 8 heures par jour. Et ben, le sommeil, imaginez que vous laissez bosser vos outils de récupération pendant tout le temps où vous dormez. C'est ça le sommeil.
Ok, nickel. Nickel. Tous les trucs, Nico, c'est des conneries ou quoi? Les trucs comme les pistolets de massage, Tu as vu les, ce qu'on appelle le hijama, là, les bulles de sang, là, que des fois tu vois sur certains athlètes au JO, même les footeux, où y a où on vient vider le sang, qui est, on dit qui est sale, ou je sais pas quoi. C'est vrai ça, tous ces trucs-là, ou bien c'est des gadgets?
C'est dégagé. C'est bon. Ce qu'il faut comprendre, c'est que une fois que j'ai mis en place la gestion de la charge d'entraînement, le sommeil et la nutrition, ensuite, j'ai des outils qui sont à la préférence, au goût de chacun. C'est-à-dire que si toi, tu préfères le sauna, magnifique, fais du sauna. Toi, tu préfères la cryo, magnifique, fais de la cryo. Mais nous, par exemple, au Krebs, on avait une cryothérapie. On avait des athlètes qui détestent la cryo. Et on avait des entraîneurs qui disaient, non, non, aujourd'hui, c'est le jour de la cryo, tu dois aller à
Vous
la
allez,
cryo.
ouais, vous allez tous.
Vous allez tous. Mais le mec déteste la cryo. C'est-à-dire que lui, quand il se met dans le froid, il n'est pas en train de récupérer. Son corps est en train de stresser. Pour lui, c'est quelque chose d'horrible. Est-ce qu'il est en train de récupérer? Non, ce n'est pas bon pour sa récupération. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que dès qu'on parle de ces outils-là, il faut les mettre dans le contexte de l'appréciation de la personne. Le massage, le pistolet de massage, la cryothérapie, le sauna, et toutes les autres techniques, si t'aimes, tu peux faire aucun souci. Si toi, tu préfères jouer à la play avec tes potes, joue à la play avec tes potes. Si toi, ce que tu préfères, c'est passer une soirée à discuter, passer une soirée avec ta femme et tes enfants, et que c'est ça qui te fait du bien, passer une soirée avec ta femme. Il ne faut pas se forcer sur ces stratégies-là.
D'accord.
Maintenant, il faut apprendre à connaître son corps, apprendre à connaître ce que tu aimes bien, les sensations que tu aimes bien, les sensations que tu n'aimes pas. Moi, je sais que personnellement, le froid, j'aime pas. Le chaud-froid, j'aime beaucoup. Le chaud, je suis pas fan. Donc moi,
D'accord.
si je dois faire un truc, je vais faire une alternance chaud-froid, avec plus de chaud que de froid, mais l'alternance, c'est quelque chose qui me plaît, c'est quelque chose que j'ai l'impression que ça me donne de l'énergie. Si je fais que froid, c'est un moment horrible. Si je fais que chaud, c'est un moment fatigant pour moi. Mais ça, il y a une question de préférence personnelle. Est-ce que tu aimes te faire masser? Il y a des gens pour qui le massage, c'est un truc horrible. Quelqu'un qui leur touche le corps, ils n'aiment pas qu'on leur touche le corps, c'est quelque chose. Et il y a d'autres qui vont dire, attends, non, le massage, pour moi, c'est le moment de la semaine qui est indispensable dans mon processus de récupération. Donc là, il y a beaucoup d'individualisation à ce niveau-là. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas sur les piliers, on n'est pas sur les bases de la pyramide. La base de la pyramide, c'est la gestion de la charge d'entraînement, la quantité et la qualité de sommeil, et ensuite la nourriture en termes de quantité et de qualité. Une fois que tu as mis tout ça, il y a beaucoup de flexibilité pour l'athlète et ce qu'il aime lui.
Ok, ouais, ch chacun, enfin, c'est propre à la personne, quoi. Bah, nickel, Nico, hein, nickel. Une petite dernière question sur la prépa physique. Regarde, Nico, comme là, on a vu ces derniers temps, là, c'était à la mode, là, en boxe anglaise. Tito Ortiz, Anderson Silva, passé la quarantaine, tu vois, on va dire, je sais pas, il doit avoir 45 ans, les deux. On a vu, il y a même juste après, tu avais Holyfield 50 ans passé. Il y avait qui encore d'autres que j'avais vu d'un certain âge? Pacquiao, en boxe anglaise aussi, il n'y a pas longtemps, il y a boxé. La prépa physique, là, enfin, je veux dire, il y a aucune limite. C'est-à-dire, si on est prêt physiquement et mentalement, si on a 40, 45 ans, il y a une équivalence avec d'une personne de 30 ans au niveau de la performance, que ce soit au niveau de l'endurance, de la force, voilà. Et c'est les cartes, ils sont jouées, quoi. Comment que ça se passe?
Alors, il y a plusieurs choses. Si on parle de qualité physique et de préservation des qualités physiques avec l'âge, la première chose, c'est que les qualités qui se perdent le plus vite sont la vitesse. La vitesse se perd très vite. Tu n'as jamais un champion du monde de sprint qui a 40 ans. Ça n'existe pas.
Ça n'existe pas.
En général, si tu regardes les sports de combat, les sports à catégorie de poids, les plus légers, donc qui misent sur la vitesse, sont ceux qui vieillissent le plus mal, en général. Okay.
Ok,
Euh,
ça je
tu as
savais
des
pas.
poids très vieux, tu as très peu de poids léger, très vieux. Okay, donc la vitesse, ça se conserve très mal. La puissance, ça se conserve du coup mal aussi, moins mal que la vitesse, mais assez mal. Et d'ailleurs, un sport extrêmement basé sur la vitesse comme le karaté, t'as pas de vieux en karaté. Tu vois, les mecs, 28 ans, c'est déjà un âge assez vieux en karaté, tu vois. Là où sur des sports de force, c'est, la force, c'est une qualité qui se préserve très bien avec l'âge. Tu as des hommes qui sont plus forts à 40 ans qu'ils n'ont jamais été de toute leur vie, ou à 45 ans. Donc la force dépend de la masse musculaire et du système nerveux central. C'est quelque chose qui peut se développer très tard. Tu peux être très fort à 40 ans, 45 ans, pas de souci. Tu peux être assez grand. En général, tu ne vas pas énormément perdre. Tu vas perdre un petit peu, mais pas énormément. Mais comme tu es… Il faut savoir que l'endurance, c'est deux choses. C'est ta capacité à produire de l'énergie et ensuite, c'est ton utilisation de l'énergie. Là où tu vas être peut-être un petit peu moins bon, c'est sur ta capacité à produire de l'énergie. Mais tu es tellement bon parce que tu as de l'expérience, tu as fait tellement d'années de combat, de gestion du stress, etc. Tu es tellement bon sur la gestion de l'énergie que tu as un véhicule qui ne dépense pas beaucoup d'énergie. Donc, tu produis peut-être un petit peu moins d'énergie, mais tu dépenses tellement moins d'énergie qu'en termes de résultats, tu peux être aussi bon.
Ouais, tu as plus d'expérience, plus de malice, quoi.
Plus de malice, tu stresses moins, du coup, tu dépenses moins d'énergie, tu as moins de ce qu'on appelle les gestes parasites. Tu sais quand accélérer, dépenser de l'énergie, quand décélérer, ne pas dépenser l'énergie. Et c'est pour ça qu'un vieux briscard des rings qui a 40 ans, 42 ans, 45 ans, il peut encore faire la peau à beaucoup de jeunes de par son expérience, sa gestion du combat, sa technicité et puis sa gestion de l'effort. Alors que sur un test physique pur, il serait battu par le plus jeune.
Ouais, d'accord. On continue à développer, enfin à maintenir cette qualité, ces qualités physiques, mais on est plus voilà dans la gestion forcément.
C'est ça.
Ouais. Ok, bah nickel, Nico. Nico, on va parler maintenant plus de toi. On arrive à la fin du podcast. Ça fait 1h06 qu'on blablate. Nico, rappelle-nous le business Nicolas. Qu'est-ce que tu proposes? C'est pour qui? C'est pour monsieur et madame tout le monde ou c'est pour des sportifs haut niveau? Qu'est-ce que tu as proposé? Quels sont tes services, Nico?
Il dit en deux secondes, j'amène le chargeur. Sinon ça va
ouais, vas-y, ça roule. On repart en pub, hein, les enfants, d'accord? Donc, merci de nous écouter sur Blabla Podcast. Le podcast est disponible sur toutes les plateformes audio, Spotify, Deezer, Google Podcast, Apple Podcast. Vous pouvez les télécharger, vous pouvez nous écouter partout, en faisant la vaisselle, votre ménage, votre lit, en attente du bus, du métro, au taf, footing, voilà. On est dispo sur toutes les plateformes audio. Merci de nous écouter. J'espère que vous apprenez plusieurs choses. Et mettez-nous s'il y a des thèmes que vous voulez savoir plus, des thèmes sur le sport, bien sûr, dans la barre des commentaires sur Instagram et Facebook. Merci. Vas-y, ouais, Nico.
Ouais. Alors, dis-moi, ouais, tu me parlais…
Tes services que tu proposes, Nico, c'est pour qui?
Eh ben, c'est un programme transformation. Qui a été dessiné avant tout pour les sports de combat. L'objectif, c'est de proposer une préparation physique à distance pour les sports de combat avec un package, un programme qui propose à la fois la musculation, le cardio pour ceux dont les salles sont fermées ou qui ont le temps de faire en plus du cardio, et puis un suivi nutritionnel pour optimiser la perte de poids ou la prise de masse pour ceux qui veulent faire une prise de masse. Donc, c'est un programme qui est extrêmement modulable, dans lequel il y a un suivi en ligne, dans lequel je réponds à toutes les questions qui sont posées. Tous les dimanches, je fais un question-réponse du dimanche, dans lequel, en plus, je vais en profondeur sur la question-réponse. Et toute la semaine, je réponds aux questions sur le programme, je corrige sur les vidéos qui sont envoyées, je monitor, je gère le poids pour qu'on aille dans le bon sens, etc., etc. Et c'est un programme qui fonctionne super bien.
Ok, nickel. Donc, vous pouvez contacter Nico. De toute façon, je mettrai en description son Instagram. Comme ça, si vous avez des questions à lui poser, vous aurez tout. Il vous répondra, il n'y a pas de souci. Nico, petit quiz de fin.
Allez, on y va.
Chaud patate, quoi.
On y va.
Gui ou Nogi?
Nogi.
Nogi. MMA ou Barnacle?
MMA.
MMA.
Je commente ou juste je dis hein. Tu me dis
non,
hein.
Tu dis. Après, si tu as envie de développer le pourquoi, il n'y a pas de souci. Hein. Home gym ou salle de sport?
Ah, tu vois, ça commence à dire si on a un home gym comme le tien, home gym. Si on a un peu de place pour faire un home gym sympa, home gym. Sinon, salle de sport, aujourd'hui, on a des très très belles salles de sport.
Il y a du beau matos. Hein.
Ouais.
Ouais. Vas-y.
Donc, bon, moi j'ai eu la chance quoi, en travaillant au Crêpes Île-de-France, au MMA Factory, à Honor. J'ai toujours eu la chance d'être dans des salles où j'étais chez moi. Quoi. J'étais un peu le boss de la salle à chaque fois. Donc ça a toujours été super cool. J'ai toujours été dans les salles de prépa physique où il y avait plein de matos pour s'entraîner vraiment en préparation physique, pas qu'en musculation. Donc dans ces conditions-là, oui, c'est sûr, une salle, c'est super. Et aujourd'hui, c'est dans ces salles-là qu'il faut aller pour faire de la prépa. Si tu vas dans une salle classique, comme à l'époque, là, je ne sais plus comment ça s'appelait, les CMG, etc., c'est une horreur, quoi. Tu ne peux pas faire de prépa physique dans ces salles-là, quoi. C'est la mort. Et en plus, ça ne donne même pas envie de s'entraîner.
ouais, je veux quoi. Ouais. Autant que ce soit bien, quoi. Bien, avoir du bon matos, quoi.
Ouais, c'est ça sûr. Va être bien.
C'est sûr. Bench press ou deadlift?
Deadlift.
Deadlift. La mer ou la montagne?
La montagne. La mer, c'est beau, c'est cool, tu vois, c'est fun, tu vas dessus, tu prends des belles photos, tu te balades, c'est sympa, mais la montagne, il y a tellement d'activités à faire. Moi, vraiment, je kiffe la montagne. C'est... Ouais. Ouais, j'adore. Et okay. L'été, l'hiver, les deux.
Ouais. Vacances d'été ou vacances d'hiver, du coup, alors?
Ouais, vacances d'été, j'aime beaucoup le soleil, par contre.
Ouais.
Les vacances d'hiver, elles sont courtes.
Ouais, c'est ça. Ouais, mais il y a une magie aussi quand c'est Noël et tout, et que ouais. T'es dans un beau décor, et t'as un peu de fumée dans les yeux. Tu te reviens à ton enfance. Hein.
Ouais.
Nike ou Adidas?
Nike, Team Nike, 100%. Tu me verras toujours en Nike. Il n'y a même pas d'Adidas pour moi. C'est Nike, ça, c'est... chaussettes, sacs, t-shirt, tout.
Ok. Du coup, Supreme ou Off-White?
De quoi?
Supreme ou Off-White?
Je sais même pas de quoi tu me parles.
C'est vrai, Supreme. Bah, Supreme, c'est la marque Ricain, là, tu sais, les skaters, là. C'est juste un... Bah, je vais te montrer, attends.
Tu vois derrière ton logo Supreme? Ouais, tu vois ton logo sur la...
Hein?
Tu vois ton logo Supreme juste derrière? Là.
Celui-là? Ah là, ouais, il est sur le cumulus, ça fait stylé, tu vois.
Non, moi je ne connais pas ça.
Ouais, bah c'est une marque ricaine new-yorkaise, quoi. Et l'autre Off-White, c'est Virgil Abloh, là, le couturier qui a fait les baskets Off-White, tout ça, avec Nike en plus, ouais, c'est avec Nike. Ah ouais. Ouais. Football ou basketball?
Franchement, je regarde ni l'un ni l'autre.
Ni l'un ni l'autre.
Après, avoir en vrai, le basket, je trouve ça magique. Le basket, c'est incroyable.
Ouais, c'est basket.
Tu vas aux US, tu regardes un match de basket, c'est un truc de ouf. Même un mec qui ne connaît pas le basket, qui n'a jamais vu de basket de sa vie,
il a
de l'animation tout le temps, il y a des points tout le temps, ça monte, ça descend, tu ne sais pas qui va gagner. C'est un spectacle de ouf. Un match de foot, tu passes 90 minutes, il y a un but, c'est la mort, quoi. C'est l'ennui.
Les beaux événements aussi, tu vois, une Coupe du Monde, un championnat d'Europe, ça va, tu vois.
Et en plus, les supporters du foot, tu vois, je vais pas me faire des. Mais le monde du foot, les terrains de foot, les mecs qui crient, les mecs qui insultent, etc. Moi, je supporte pas
ça. Ouais, c'est vrai, en plus, dans le foot, ça revient de plus en plus, là, les ultras, tout ça, là, les bagarres dans les tribunes.
Les bagarres dans les tribunes, les mecs qui insultent, les machins, les mecs qui défendent sur des trucs de foot. C'est un truc qui n'existe pas dans les sports de combat, ça.
Non, pour ça, c'est sûr, ouais, y a pas ça. Il y a plus de respect dans les sports de combat que les sports.
Parce que c'est la réalité. Parce que si tu parles mal à ton entraîneur, tu vas te faire décalquer. Donc, il n'y a pas ce qui arrive sur un match de foot, sur un terrain de foot, où tu vois des mecs qui s'enflamment avec l'entraîneur, etc. Dans une salle de sport de combat, tu peux avoir 40 gaillards. L'entraîneur, il dit, les gars, vous ne rentrez pas ou vous faites des pompes ou tu t'assois ou machin, personne ne parle. Moi, je donnais des cours, il y avait 40 personnes, 50 personnes sur le tatami. Il y avait des mecs qui étaient 3 fois plus gros que moi. Mais je n'ai jamais eu à hausser le ton ou machin ou bidule. Je disais un truc, les mecs, ils écoutaient et on faisait le truc. C'est le respect des sports de combat. Moi, j'adore ça.
Ouais, c'est ça, ouais. UFC ou ONE FC?
Ah, putain. UFC, j'adore, mais ONE FC, j'adore aussi. Hein. Franchement, le ONE FC, il me fait kiffer.
Ouais, les arènes qui... Moi aussi, ouais. Et là, t'as pas vu, là, c'est au mois de décembre, j'ai lu Demetrius Johnson, ouais, il va faire un combat contre un Thaï, je crois, tu vois, mais un Thaï qui s'est mis au MMA, qui pratique déjà du MMA. Et ça va être 4 rounds, 2 de Muay Thai et 2 de MMA. C'est une dinguerie. Hein.
Ouais, le Thaï, il s'appelle Rod Tang. C'est le...
Ouais, Rod Tang, voilà, c'est ça.
C'est le champion du ONE FC, ouais.
Ça ne s'est jamais fait, ça. Et moi, je trouve que ça peut être pas mal. Hein. Tu vois, 2 sur 4 rounds, 2 en percussion et 2 en MMA. Tu vois, c'est... Bon, ouais, c'est des visionnaires, les mecs.
Ouais, il va faire le deuxième round. Hein. Ça, il va pas passer le deuxième.
Ouais, dès que ça va passer en MMA, je crois que ça va finir. Le Rod Tang, là, il pratique le MMA aussi, lui, non?
Bon, je sais pas s'il pratique, mais qui pratique ou qui pratique pas, il est face à Demetrius Johnson.
Demetrius, ouais. Demetrius,
ouais, c'est vrai. Il va le soumettre, fin de l'histoire.
C'est peu. Et ce mec-là, il était trop. Quand il était à l'UFC, je trouve qu'il était trop sous-côté. Hein.
Tellement fort, tellement fort.
Ouais, grave. Quel quiz assez. Je fais de l'impro. Hein. Porsche ou Ferrari?
Franchement, j'ai toujours été Ferrari, mais je pense là aujourd'hui, je serais Porsche. J'aime bien les Porsche. Il y a des belles Porsche.
Il y a des belles caisses. Bah écoute, Nico, c'était super. Merci d'avoir pris de ton temps précieux, de parler de ta passion, de ton taf, hein, d'avoir partagé des tips, donné des conseils sur la prépa physique, sur la récup et tout ça, quoi. Merci d'avoir accepté l'invitation encore. Je mettrai, pour ceux qui veulent checker, follow, poser des questions à Nico, je mettrai tout en description. Merci aux blablateurs, blablatrices de encore nous écouter. N'hésitez pas à mettre en description les thèmes d'un podcast, d'accord? Et Nico, merci beaucoup pour ton temps passé avec nous.
Merci beaucoup, Idir. À très bientôt.
À très bientôt, on se capte bientôt dans les réseaux sociaux, peut-être en compète ou quoi, hein, Nico, hein.
Ouais, avec grand plaisir. Allez, merci. Salut.
Salut, ciao. Merci beaucoup, Nico. Ciao. Ciao.
En gros, pour faire simple, ils veulent faire l'amour, pas la guerre.
Non, mais l'un n'empêche pas l'autre. J'ai toujours fait les deux et jusqu'à présent, je n'ai jamais reçu aucune plainte.
Sacré Hubert, you are so French.
Oh, toi aussi.